Parole d'auteur. Parole d'auteur. Christophe Hyde.
Les écrivains sont des femmes et des hommes comme les autres. La vie ne les épargne pas plus que nous. Bien sûr, les drames, les maladies sont notre lot commun. Pourtant, l'artiste voit souvent dans ces circonstances tragiques une occasion de dire mieux, de dire plus, de dire au-delà des faits et des gestes, de voir plus loin, des signes peut-être. Nous recevons aujourd'hui Julia Deck pour son dernier livre paru aux éditions du Seuil, intitulé Anne d'Angleterre, où elle nous donne l'occasion de rencontrer sa mère. Dans ce livre, elle parle du moment où tout bascule brutalement dans leur vie, lorsque Anne, sa mère, est victime d'un accident cérébral. Elle nous raconte ce que mobilise physiquement, émotionnellement, intimement, l'inversion des normes lorsqu'une fille adulte s'occupe, défend et protège sa mère âgée et malade. Bonjour Julia Deck et merci d'avoir accepté cette invitation à Parole d'auteur.
Bonjour Christophe.
Alors vous étiez venu il y a 2 ans nous parler de Monument National paru aux éditions de Minuit. Alors dans un château, des people, une petite fille malheureuse et étrange racontait un monde d'adultes compliqué et trouble. Il s'agissait de votre 5e livre. Les 5 premiers étaient donc des romans, de la fiction. Et nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler d'un texte, comme je l'ai dit en introduction, qui est très autobiographique. Des choses ont changé dans votre vie et que s'est-il passé donc pour que vous soyez passé de la fiction à l'autobiographie? Que s'est-il passé ce soir du mois d'avril 2022?
Il s'est passé cet accident qu'a subi ma mère. Mais c'est drôle, quand je vous écoutais résumer le précédent livre, cette petite fille troublée dans le monde bizarre des adultes, je me dis que finalement les choses n'ont pas tant changé que ça. Ça pourrait être une métaphore de ce livre-ci. Oui, le livre est parti de cet accident qui a interrompu. Moi, j'étais en train de promouvoir justement au Monument National quand l'accident s'est produit. Et là, tout s'est arrêté parce qu'on m'a dit que cet accident allait être fatal. Donc, j'avais bien l'intention d'accompagner ma mère jusqu'au bout. Et puis, finalement, elle a donné des signes de conscience de plus en plus grands. Et je me suis trouvée confrontée à un parcours hospitalier qui a été extrêmement difficile pour tout le monde. Et je me suis dit assez vite, en vérité, que bien sûr, c'était une affaire privée, c'était une affaire personnelle, mais que cette affaire, elle ne concernait pas que moi. C'est-à-dire que la prise en charge des personnes âgées, le système de soins... J'ai vu une situation que je connaissais par les journaux, mais en fait, quand on y est confronté, c'est extrêmement différent. Et j'avais l'impression d'être embarquée dans une sorte d'expérience collective avec les patients d'un côté, les proches des patients d'un autre côté, et d'un troisième côté, les soignants, tous avec des logiques un peu différentes. Et je me suis dit, là, il y a une histoire. En fait, il y avait une histoire de fait, parce que ma mère est rentrée à l'hôpital un jour, et je savais bien qu'au terme du parcours de soins, elle en sortirait. Et j'ai trouvé que oui, il y avait une matière littéraire. Bien sûr, il y a une matière journalistique, on en entend parler tous les jours, mais il y a aussi une matière littéraire dans ces moments entre la vie et la mort et qui articule vraiment l'expérience individuelle à une expérience de société, quoi. Où est-ce qu'on en est avec la santé?
Et pourtant, vous auriez pu en faire du roman. C'est-à-dire que au début du livre, vous rapportez avant l'accident vasculaire de votre mère une conversation que vous avez avec des universitaires à Bruxelles, et vous dites nous parlions des rapports entre roman et autobiographie et de ce genre intermédiaire nommé autofiction où l'auteur se raconte de façon plus ou moins transparente à travers des péripéties romancées. Pour ma part, j'ai choisi mon camp il y a longtemps, le roman romanesque à personnages et intrigues. Je m'y tiens fermement planté. Et je le clame haut et fort, même quand on ne me pose pas la question. Et donc, vous avez changé de camp.
C'est vrai qu'il y avait quand même déjà cette tentation autobiographique. Et comme un signe, une semaine avant l'accident, j'avais cette conversation avec des universitaires où on parlait des rapports entre romans, essais et... ce genre intermédiaire, l'autofiction, moi je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Donc je me posais ces questions aussi en lien avec mon histoire anglaise. Ma mère est anglaise. Elle a vécu toute la première partie de sa vie jusqu'à ses jeunes années d'adulte en Angleterre. Elle m'a eu à un âge qui était assez tardif pour l'époque. Et moi, j'ai toujours été très curieuse de cette question des origines qui m'étaient en partie inaccessibles, qui m'étaient d'ailleurs largement inaccessibles, parce que évidemment l'Angleterre avant la Seconde Guerre mondiale, le monde que ça a été et qui n'existe plus, tout ça je peux simplement l'imaginer, mais j'y aurais jamais accès, tout comme j'aurais jamais complètement accès à ma famille anglaise. Et il y avait pas mal de choses sur lesquelles j'avais des interrogations sérieuses. Ouais, je me demandais beaucoup pourquoi ma mère était partie, avait quitté l'Angleterre et avait vraiment tiré un trait sur son passé. Donc ces questions, elles étaient sous-jacentes. Et oui, j'aurais pu romancer tout ça, mais peut-être que c'était justement ce moment très très particulier où l'existence est suspendue. On ne sait pas ce que ça va donner. On peut espérer, on a des hypothèses médicales, mais en fait, on n'en sait rien. Et je me suis dit qu'il fallait pas biaiser avec ça. Donc il fallait être soit dans le camp de la fiction, soit dans le camp de, on va dire, de l'autobiographie, de la biographie pour ce qui concerne ma mère. Mais je voulais pas d'entre deux. Et ça, à vrai dire, c'est un choix personnel parce qu'il n'y a pas de morale à avoir en littérature. Mais ouais, moi je voulais pas mélanger les deux. Il y avait une forme d'exercice d'écriture, d'une forme d'exigence de comment est-ce que je peux être, où est-ce que je peux trouver le point suffisamment confortable dans l'écriture pour dire des choses très personnelles, alors que jamais je me suis engagée dans cette voie-là avant, sous une forme qui me paraît suffisamment romanesque pour être recevable par un public.
Et du reste, si tout est vrai dans le livre, il y a marqué sur la couverture sous le titre « roman ».
Oui, alors ça c'est d'abord le choix de l'éditeur, parce que pour des raisons un peu obscures, en France tous les livres de littérature plus ou moins sont titrés romans, parce que sinon ils sont étiquetés romans, parce que sinon ça pose des problèmes de classement en librairie et en bibliothèque, si j'ai bien compris, tout simplement. Donc c'est pas mon choix à moi, mais je m'en suis quand même, je m'en suis accommodée en fait, parce que je pense que la forme est romanesque. Le fait de construire une histoire, de lui donner une forme, de décider qu'il y a un début, qu'il y a une fin, d'entrecroiser deux fils, parce que tout au long du livre, il y a à la fois le fil contemporain qui raconte les suites de l'accident et le fil, je dirais, historique où je raconte toute l'histoire de ma mère depuis bien avant-guerre. Oui, c'est une forme romanesque avec des faits réels, donc pourquoi pas, en vérité.
Et donc on va y venir à ce récit qui commence par quelque chose de poignant, enfin même de traumatique. Si je dois m'exprimer avec le langage médical, c'est la phase aiguë d'un accident vasculaire qui prend votre mère brutalement, mère que vous quittez quelques heures avant de la retrouver. C'est vous qui faites... je dirais, la découverte de...
Oui, mais je l'ai retrouvée... en fait, ça a été possible de reconstruire à peu près les événements, mais je pense que l'accident s'est produit, je venais de la quitter depuis... Enfin, je l'avais quittée 10 minutes ou un quart d'heure plus tôt, et je l'ai retrouvée à peu près 28 heures plus tard. Donc on sait bien que, en fait, c'est très tard pour un accident cérébral. Et voilà, mais en fait, qu'est-ce qu'on fait dans l'urgence? Eh ben, on agit.
Et on va aux urgences.
Et c'est
la première étape de ce parcours. C'est votre entrée dans... voilà. Des fois, ça, le récit qui tourne autour de l'accident vasculaire ressemble un peu, je m'excuse, c'est un peu trivial de dire, mais comme un jeu de loi, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on va aux urgences, puis ensuite on va à l'unité de courte durée, puis ensuite on va à l'unité de court séjour. Parfois on avance et puis on recule, on progresse, il y a des choses. Mais restons à la phase aiguë, entre guillemets. Là, on vous annonce un pronostic. Et ce pronostic, il est déjoué.
Ah bah oui, les examens, l'imagerie médicale était assez claire, et donc on m'a donné un pronostic qui était fatal pour les heures ou les jours qui suivraient, et je pense que je m'en suis accommodée. parce que personne âgée, on sait bien que ça peut arriver. Et en fait, la vie, elle vous surprend tout le temps. C'est-à-dire que même dans les cas désespérés, il peut se produire, non pas un miracle, en fait, je pense que ça relève absolument pas du miracle, mais simplement la volonté, le désir de la personne. Et ma mère est une personne extrêmement tenace. Je pense que c'est ce qui l'a vraiment conduit toute sa vie. Ça l'a conduit à sortir de son milieu social, à voyager, à apprendre des langues, à avoir pas du tout une destinée extraordinaire, mais à toujours sortir des cases, justement, sortir des cases du jeu de loi. Et moi, je me suis dit qu'il fallait accompagner ça. En effet, c'est pas parce que les gens sont âgés qu'on doit renoncer. En fait, les gens sont pas réductibles à des chiffres ou à des statistiques. Donc, ça me paraissait essentiel de rester au chevet de la personne, en l'occurrence de ma mère, pour écouter ce qu'elle avait à dire, même dans un brouillard très très dense.
Ouais. Et ce qui frappe le lecteur, c'est vous êtes auprès d'elle, donc vous venez de la découvrir, c'est extrêmement traumatisant. Vous êtes en état probablement de choc, il y a un effet de sidération. Et dans cet hôpital, et ensuite dans les étapes qui vont suivre, on est vraiment frappé par une espèce d'indifférence, avec des gens qui manquent de temps, qui manquent d'explications, un système, on pourrait dire parfois même, qui essaie de protéger un peu ses insuffisances par de la distance. Et vous, vous êtes rendu à vous-même avec ce manque d'explications et vous êtes là dans ce « et si, et si, et si » parce que, voilà, c'est tragédie. C'est un peu comme, ça m'a fait penser au livre de Brigitte Giraud, et oui. Si vivre vite.
Et si je n'avais pas ceci, ce serait pas voilà, cela.
Et
si
j'avais fait. Et donc vous êtes rendu, il y a le tragique d'accompagner sa mère, et en plus, vous êtes dans cette.
Bah oui, je pense qu'évidemment, une des premières réactions, c'était la culpabilité, et que faire de la culpabilité. Et d'ailleurs, dans les premières versions du livre, je pense qu'il y avait beaucoup plus sur la culpabilité, sur la colère, sur la tristesse. Et c'est des choses que j'ai conserver, mais uniquement en partie, parce que je pense que c'était pas le sujet du livre. En fait, j'ai essayé de faire la part de ce dont je devais plus, au fil du temps, essayer de m'accommoder en tant que personne et ce que je devais faire en tant qu'écrivain, en tant que romancière. Donc, je voulais pas que ce soit un livre de deuil dans le sens où on dit que même si la personne survit, ben on fait le deuil de la personne qu'elle a été pour rencontrer une personne nouvelle. Mais c'était pas ça que je voulais faire. Je voulais pas faire un témoignage mélancolique ou créer une espèce de mausolée. Moi, je voulais faire quelque chose de vraiment énergique et vivant parce que j'avais le sentiment que la vie était toujours extrêmement présente et qu'il y avait ce parcours hospitalier que vous décrivez comme un jeu de loi. En effet, à des moments, on a l'impression que c'est un jeu un peu sinistre, un peu morbide, mais on est dans une logique tout à fait différente. Et moi, ce qui m'a frappé dans ce parcours, je pense, rétrospectivement, c'est l'absence de place pour le langage. Bien sûr, on ne peut pas demander à la médecine de savoir des choses qu'elle ne sait pas. On ne peut pas demander à des médecins de vous tenir la main pendant tout un parcours à travers des étapes difficiles de la vie, mais auxquelles tout le monde va se trouver confronté. Mais quand même, il faut une place pour se parler, pour se dire les choses, essayer de comprendre la situation.
Donner du sens.
Et je pense que ça, en fait, ça favorise le parcours de soins, parce que si on communique, évidemment que ça va mieux pour la patiente, ça va mieux pour les proches qui sont plus en capacité d'agir. Mais moi, ce que j'ai vu, c'est des services tellement démunis que c'est ce que vous dites. Les gens essaient de protéger les limites de leurs ressources en se couvrant en permanence. Et moi, j'avais l'impression que c'était aussi un lieu de souffrance pour les soignants, le fait de pas pouvoir faire leur métier comme dans des conditions convenables.
Et puis parfois, on a l'impression qu'il y a des discussions qui sont sur deux niveaux qui ne peuvent pas se rejoindre. C'est-à-dire que vous demandez qu'est-ce qui va se passer, vous parlez des émotions, etc. Et vous répondez, mais si la technique ne peut rien, ben, la médecine est muette, en fait. La médecine n'a rien à dire, puisque techniquement, ben, on ne peut rien de plus. J'ai un peu cette impression-là. Parce que, et notamment au début, là, aux urgences, elle est aux urgences vitales, et il y a ce gimmick qui revient, les constantes sont constantes. Et puis plus loin, les constantes sont toujours constantes. Parce que, à chaque fois que vous posez des questions, qu'est-ce qui va se passer? On vous dit, mais tout va bien, les constantes sont constantes. Les constantes, c'est le pouls, la tension, la saturation en oxygène. Et donc ça, c'est suffisant pour les soignants, la médecine technicienne. Mais vous, évidemment, c'est...
Ah ben oui, évidemment, on voudrait des réponses. Peut-être qu'il y a des phases dans la vie où il n'y a pas de réponse, en fait. Et il faut s'accoutumer à une marge d'incertitude, d'ailleurs dans la vie en général. Mais très vite... Il y avait quand même des solutions possibles. Enfin, on sait que après un AVC, il faut procéder à une rééducation le plus vite possible. Le problème, c'est que s'il n'y a pas de rééducateur, eh ben la rééducation ne peut pas avoir lieu. Et ce qui était terrible, c'est que en l'absence de rééducation possible, j'étais aiguillée vers. Tout de suite, on m'a demandé quel était mon projet personnel.
Alors,
j'étais un peu éberluée.
Il y a ce chiffon rouge là, le projet. Vous l'écrivez en gros. Le projet.
On me demande quel est mon projet, et en fait mon projet c'est soit de placer ma mère en EHPAD, soit d'organiser un retour à domicile avec toutes sortes d'aides. Et pour moi ça c'est pas un projet, c'est un choix orienté par des nécessités qui ne sont pas les miennes en fait. Et puis pour moi c'était un langage complètement lunaire, et c'est aussi le langage du projet, c'est le langage de l'entreprise qui a importé à l'hôpital, et moi évidemment j'avais une toute autre vision du service public. Donc ça a été aussi une résistance par rapport au langage, je dirais.
Eh oui, le langage qui peut nous aider à gérer nos émotions. Enfin vraiment, tout au long de ce livre, il y a les montagnes russes des émotions, c'est-à-dire que parfois vous tombez de votre chaise dans des conversations avec le directeur de l'EHPAD, qui avec l'assistante sociale, qui avec l'infirmière, mais vous remontez en selle sur votre vélo vert, parce que vous achetez un vélo vert et puis vous allez rendre visite à votre mère, mais vous oscillez entre la colère et le désespoir, et en fait j'aimerais vous poser une question, qu'est-ce que vous avez appris sur vous-même à travers cette expérience, ce parcours de soins? Vaste question.
J'ai appris énormément de choses. Je pourrais vous... D'abord, j'ai appris quelque chose d'extrêmement trivial, c'est que maintenant, je manipule extrêmement bien les plateformes administratives. Alors là, j'avais une espèce de phobie administrative. Maintenant, je ne l'ai plus du tout. J'ai appris à dominer ces systèmes-là pour partie. Mais ça, c'est une réponse triviale. Ce qui est très étonnant, c'est comment ça transforme la relation avec les proches. Tout d'un coup, on doit prendre ses parents en charge, et les parents deviennent d'autres personnes, et on devient soi-même une autre personne. Et quand on doit le faire vite, oui, c'est quand même très troublant. En tant qu'écrivain, ce qui m'intéresse, c'est que je pense que ça change aussi, ça modifie aussi des choses dans l'écriture. Ça, d'abord, il y avait ce cap de passer à l'autobiographie, de pas inventer des situations. Mais je pense que ça modifie quelque chose plus en profondeur. Par exemple, dans mon précédent livre, il y avait une pente ironique très très accentuée, presque acide parfois, et je pense que ça a été tempéré, non pas parce que je renonce à l'ironie, au contraire, l'ironie, elle est salvatrice quand on se retrouve face à des situations absurdes, mais on la place un peu autrement, et peut-être qu'il y a aussi une plus grande douceur, en tout cas un cheminement vers une plus grande douceur, je dirais. Oui, je pense que ce qui est le plus rude, le plus brutal est au début du livre, et après il y a quand même une forme d'apaisement. Oui.
Puisqu'on parle d'apaisement, je vais vous proposer de faire une pause musicale. Je vous avais demandé de choisir une chanson, et vous avez choisi celle-ci. Elle est intitulée « Je sens, tu mens ». Thank you.
je ris pour toute la vie. Ma vie si noire, les soirs, je la laissais tomber. Ton regard ne nous fâche, je l'ai enfant.
Parole d'auteur. Christophe Hyde.
Nous sommes de retour avec Julia Deck, venue nous parler de son dernier roman Anne d'Angleterre, paru au Seuil. Nous venons d'écouter une chanson de votre choix, extraite de la bande originale du film La prisonnière de Bordeaux, intitulée Je sens, tu mens, de Amine Bouafa. Alors pourquoi ce choix ?
C'est le dernier film que... C'est la bande originale du dernier film qui m'a beaucoup émue. J'aime beaucoup cette réalisatrice, Patricia Mazui. Et c'est l'histoire de deux femmes qui sont amies alors qu'elles viennent de milieux extrêmement différents. Et voilà, bah, allez savoir pourquoi ça m'a émue.
D'accord. Alors, dans la première partie, on a parlé du malheur qui frappe votre mère. Mais finalement, on l'a pas rencontrée, cette mère. Elle est simplement une victime parmi d'autres d'un événement vasculaire cérébral. Et c'est quand même, dans votre livre, il y a toute une part sur sa biographie. Alors, sans dévoiler l'un des fils du récit, qui est, l'effraction de l'AVC, sa rupture dans la vie de votre mère et dans la vôtre, va révéler que des choses ne peuvent pas plus être dites, puisque les séquelles de son accident vasculaire cérébral entraînent un trouble du langage, une aphasie. Mais vous, en tant que fille, en tant qu'écrivain, vous allez combler, vous mettre en quête de sa vie, avec ses trous, ses blancs, ses... peut-être que c'est parce que vous êtes amateur de romans policiers, je sais pas. Comment vous avez fait? Comment vous en êtes arrivé? Avec quel matériel?
D'abord
vos souvenirs, mais...
Je me permettrai de contester un petit peu le terme de victime que vous avez employé pour l'autre partie du livre. Parce que justement, j'ai essayé dans les deux trames de montrer le parcours d'une femme qui agit tout le temps. Et dans la difficulté, et dans ce désastre médical, on peut dire, et dans son parcours de vie, qui, moi, m'a toujours vraiment frappée, je pense, du point de vue romanesque, et indépendamment du fait que je suis sa fille. C'est-à-dire que c'est une personne qui, à 80 ans passés, a traversé bien des époques et les a toujours vécues pleinement. Donc c'est comme un témoin de toute la seconde partie du XXe siècle et du début du XXIe. Comme j'ai grandi avec ma mère sans frère et sœur et mon père était beaucoup absent, on a énormément parlé. Alors en tout cas, elle m'a énormément raconté elle m'a raconté énormément de choses sur sa jeunesse, hein, et j'étais vraiment surprise de voir toute des époques qui surgissaient au fil de sa mémoire. Et donc elle me racontait dans ses premières années comment elle était réveillée par les sirènes qui annonçaient les bombardements de l'aviation allemande, parce qu'elle vivait dans cette petite ville ouvrière qui, par une espèce de miracle économique, s'est retrouvé un fleuron de l'industrie britannique à une époque où tout le pays était sinistré par la crise de 1929, Mais cette usine, elle produisait tous les nouveaux matériaux du 20e siècle, donc le plastique, le colorant, les colorants, le nylon, toutes sortes de choses qui ont permis la démocratisation, finalement, le fait que les gens puissent manger et s'habiller de manière beaucoup plus variée qu'avant. Et ça permettait un accès aux nouveaux produits au plus grand nombre. Et donc, il y avait cette enfance comme ça dans une Angleterre industrielle qui n'existe évidemment plus, qui était vraiment pour le coup victime de la guerre en partie, puisque de grands pans de la ville ont été détruits, et elle allait à l'école comme ça dans des paysages en partie en ruine. Et puis après la guerre, elle a bénéficié de bourses pour suivre des études auxquelles elle n'était pas du tout prédestinée, mais elle était extrêmement encouragée par sa mère qui, elle, n'avait pas pu faire d'études parce que son père s'y était opposé, considérait que les femmes ne devaient pas travailler. Donc ma grand-mère a reporté tous ses espoirs sur ses filles et finalement...
Elles étaient deux.
Elles étaient deux filles. Et ma mère est la seule à être allée à l'université, mais elle était aussi la seule à quitter la région. Et jusqu'à ce jour, en vérité, tous sont restés presque dans le même pâté de maison. Et elle est partie. Et alors moi, je me dis toujours, oui, il y avait cette curiosité, il y avait un appétit intellectuel, il y avait un désir de découvrir le monde, d'aller en France, d'apprendre le français, de parler le français comme une Française, ce qui n'a jamais été totalement le cas. Mais aussi, pendant les années 60, elle a vécu à Rome, elle a vécu à Londres, alors que c'était un épicentre artistique et intellectuel. Et à chaque fois, il y avait cette curiosité, cet appétit, et puis une forme de mimétisme qui la poussait à embrasser toutes les nouveautés, évidemment les nouveautés dans la pensée, dans l'histoire des idées, l'histoire politique, et puis tout simplement la mode, et bien sûr l'histoire des femmes, comment les rapports des femmes à elles-mêmes ont beaucoup évolué dans ces années-là. À la fois par les avancées en matière de contraception, en matière de droit, mais aussi dans le regard qu'elle portait sur elle-même.
C'est aussi quelqu'un qui, on peut pas dire qu'il s'extrait, parce qu'il y a pas de, elle est issue de la classe ouvrière, mais c'est pas le misérabilisme de Dickens. Elle apprend le piano, elle va au cinéma, et par l'intelligence, elle devient boursière et elle va au lycée, et puis ensuite, vous dites, en effet, à la faculté. Et j'ai retenu deux choses. Donc, elle va à Cleveland School, où la devise est age quod agis, fais bien ce que tu fais. Et l'université de Manchester, sa devise, c'est arduus ad solem, s'efforcer d'atteindre le soleil. Et j'ai trouvé que ces deux devises, parce qu'il faut avoir une devise dans la vie, lui allaient plutôt bien.
Complètement. Oui, complètement. Mais c'était une éducation de rêve quand j'y repense, parce que d'abord elle a été dans un lycée pour jeunes filles où elles étaient 12 dans la classe avec des professeurs extrêmement bienveillantes qui avaient à cœur de permettre à ces jeunes filles de progresser.
Et c'était la seule boursière dans l'Angleterre avec ses classes sociales.
L'Angleterre est toujours une société extrêmement nivelée. Et là, je pense qu'elle avait sans doute un problème avec son accent, parce qu'on sait aussi qu'en Angleterre, les accents sont très différents et ils vous trahissent tout de suite. Et sans doute que ma mère avait un accent qui connotait la classe ouvrière, mais il y avait des professeurs d'éloquence. Donc ça a permis, à l'âge adulte, elle n'avait plus un accent de la classe ouvrière. Moi, quand je l'entends encore parler anglais, elle n'a pas du tout l'accent de ses origines. Donc ça, c'est des petites choses qui permettent en effet de traverser les frontières sociales. Et quand elle est allée à l'université, l'université avait encore... alors en Angleterre, l'université est payante, donc il fallait bénéficier d'une bourse, mais à l'époque, il y avait un système de bourse qui était quand même très généreux et qui favorisait les classes plus modestes. Et c'est tout un système de services publics qui est malheureusement très très mis à mal dans une grande partie de l'Europe aujourd'hui.
Ce qui me frappe aussi dans sa vie... parce qu'on rentre quand même dans les détails, c'est que ce n'est ni une baby-boomeuse, puisqu'elle est née en 1937, donc c'est pas les yéyés, et elle a pas fait mai 68. Et donc dans ses représentations personnelles, ça se sent en fait, c'est mon avis de lecteur, hein,
oui, il y avait
un certain décalage.
Il n'y a pas cette... Il n'y avait pas ce côté léger, un peu insouciant qu'ont eu les générations nées après la guerre. Et il y avait aussi, je pense, un scepticisme constant vis-à-vis des événements politiques en France, notamment mai 68 et puis bien plus tard l'élection de François Mitterrand en 81, parce qu'elle avait une expérience antérieure à tout ça et elle avait vu les gouvernements travaillistes en Angleterre qui... avait, après bien des promesses, n'avait pas vraiment, ouais, les promesses n'avaient pas été entièrement tenues, donc il y avait toujours un recul vis-à-vis des événements politiques, mais toujours un regard extrêmement acéré.
Ouais. Bon, c'est une Anglaise un peu particulière parce qu'elle n'est pas royaliste.
Ah, il y a beaucoup d'Anglais qui ne sont pas royalistes.
Ah bon, non. Mais alors, parce que non, contrairement au titre Anne d'Angleterre, là, Élisabeth d'Angleterre, au décours du livre, on apprend qu'au moment où Élisabeth II meurt, bon, elle regarde ça avec mépris.
Alors, il faut comprendre quand même quelque chose du rapport entre les Anglais et leur royauté, c'est que beaucoup, on regarde tout ça avec beaucoup de distance, voire d'ironie, mais quand même, c'est des gens qui vous accompagnent tout au long de votre vie. Je ne sais plus combien de temps a régné Élisabeth II, mais c'était plus de 60, 70 ans, je dirais. Regardons la place que prennent les présidents de la République en France. Enfin, voilà, on est sans arrêt en train de parler de Macron. Avant, on parlait de François Hollande. Avant, on parlait de Sarkozy. C'est comme si un président durait toute votre vie, ou quasi. Évidemment qu'il y a un rapport d'identification. C'est un peu un membre éloigné et tout puissant de la famille. Donc, bien sûr que la reine Élisabeth, elle a eu un retentissement réel dans la vie des Anglais. Et moi, j'ai choisi le titre du livre qui était en fait mon titre de travail. Je ne pensais pas le garder. Et puis l'éditeur a trouvé que c'était un bon titre. Donc j'étais très contente qu'il le conserve. Mais en Angleterre, bien sûr, oui, ça connote un peu la famille royale. Mais je trouvais que c'était bien de montrer aussi la royauté de personnes extrêmement modestes et qui finalement ont eu le mérite de sortir de leurs conditions, alors que finalement les rois et les reines, ils restent à la place à laquelle ils sont assignés à la naissance.
Le caractère franco ou anglo-français, des relations anglo-françaises dans votre famille est très présente. Et j'aimerais vous poser la question, qu'est-ce qu'il y a en vous d'anglais ?
Peut-être une manière de regarder les choses avec un petit peu d'ironie et de scepticisme. Ça, je pense que l'ironie, c'est assez culturel, en fait. Encore que mon père français a beaucoup d'humour. Mais je pense qu'il y a peut-être une tournure d'esprit. Cela dit, je finis par m'habituer au fait d'être française. Pendant très longtemps, j'ai eu cet espoir de rejoindre ma mère parmi les Anglais. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était un espoir qui serait toujours contrarié. Parce que il y a comme ça, quand on a des parents étrangers ou un parent étranger, il y a une partie des origines dont on est, je pense... pour toujours dissocier. Et donc c'est une richesse parce que ça nous appartient aussi et on peut aller dans le pays d'origine et on peut avoir ces relations multiculturelles qui sont extrêmement agréables et source de plein de richesses. Mais en même temps, je pense qu'il y a une forme de mélancolie irrémédiable, qu'on n'appartiendra jamais vraiment complètement à la famille d'origine.
D'autant, ce qui est troublant dans le livre, c'est que vous parlez à la maison en français jusqu'à ce que votre père quitte le domicile, où là vous passez à la langue anglaise. Et d'ailleurs, votre mère dit « c'est pas bon d'apprendre deux langues en même temps, on n'en parle aucune de façon correcte ». Et donc elle préfère que vous parliez en français jusqu'à votre adolescence.
Oui, alors dans les années 70, on n'avait pas du tout l'idée que...
bilinguisme.
Ou certaines personnes n'avaient pas l'idée qu'on pouvait parler plusieurs langues en même temps, ou tour de rôle aux enfants. Et ma mère ne me parlait pas anglais. Donc j'ai appris le français avec une mère qui parlait l'anglais avec un petit accent et pour qui c'était vraiment moins fluide que si ça avait été sa langue maternelle. Et du reste, moi, je finis par me dire que j'ai pas vraiment de langue maternelle. J'ai une langue paternelle et puis j'ai une langue apprise qui est celle de ma mère, que j'ai appris beaucoup plus tard. Je l'entendais quand on allait en vacances en Angleterre et puis je l'ai apprise au collège où où là, tout d'un coup, j'ai dévoré les livres en anglais. Et c'est vrai qu'un beau jour, suite à des événements familiaux, j'ai dit à ma mère, bah, maintenant, on arrête de parler français. Et j'avais 15 ou 16 ans, j'ai dit, maintenant, on parle anglais et on n'a plus jamais échangé un mot en français, pour ainsi dire. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours interrogée. Cette inversion des langues, parce qu'évidemment, on n'est pas la même personne selon la langue qu'on parle. On est plus ou moins lesté par ses origines, on se sent plus ou moins léger, il y a plus ou moins cette ivresse de parler une langue étrangère ou de parler la sienne. Et il n'y avait pas de rapport d'équivalence, puisqu'on n'était pas égal, on n'était pas égal ni dans une langue ni dans l'autre.
Et d'ailleurs, au détour d'un chapitre, on apprend que Julia, collégienne, grâce à un magnétocassette, traduisait Madonna, Cyndi Lauper et Annie Lennox, et je vous propose d'écouter une chanson de ces années-là.
I came to say goodbye.
But why, Boris? Why?
I've made up my mind. I'm going away.
Then I shall be alone.
That journey into the desert you've spoken of, you will take it alone.
What else can I do?
Once you said to me that peace and happiness might be found there, you gave me hope. And now we have to say goodbye.
Goodbye.
If you're lost.
Parole d'auteur. Christophe Hyde.
Nous écoutions Cyndi Lauper qui chantait Time After Time, qui débute par une introduction cinématographique où l'on entend Marlène Dietrich donner la réplique à Charles Boyer dans Le Jardin d'Ala. Alors Julia Deck, dans votre roman Anne d'Angleterre, paru aux éditions du Seuil, il est souvent fait référence au cinéma. Et ça semble être un goût et une transmission maternelle pour le coup.
Ah oui, complètement. Je pense que le goût du cinéma et avant le goût de la littérature, c'est aussi des choses que dont j'ai hérité parce qu'il y avait un rapport très très fort au cinéma et au roman dans ma famille où finalement il y avait de grandes difficultés à se comprendre et c'est à travers la fiction qu'on a réussi à se rejoindre. Spécialement avec ma mère parce qu'on avait, je dirais, à peu près aucune affinité naturelle. C'est curieux, c'est quand même... Je me suis fait la réflexion que dans mes précédents livres, il y a beaucoup de rapports problématiques entre les mères et les filles, et sans doute que ça vient de là. Dans la mythologie commune, on a cette idée que ça doit se faire naturellement, mais en fait, bien souvent, ça se fait pas du tout de façon naturelle. Et nous, on a dû trouver les livres, les personnages de fiction qui nous permettaient de nous comprendre. Ça a d'abord été le roman. Comme quoi, le roman, il a une action extrêmement concrète dans la vie, et après, ça a été le cinéma.
Oui. On dit qu'on ne fait pas de bonne littérature avec des bons sentiments, alors, parce qu'en effet, ce n'est pas du tout une hagiographie, c'est une biographie de votre mère, et on sent beaucoup d'amour, d'attention, mais on traverse aussi une relation qui peut être parfois orageuse, voilà, vous l'a dit parfois... qui, à un moment, elle manque si peu d'indulgence elle a si peu d'indulgence pour le manquement des autres, mais qu'avec l'âge, elle perd un peu de sa rigueur. On va même parfois jusqu'à, donc ça, c'est la Julia, j'imagine, adolescente, mais jusqu'à de la rage éprouvée vis-à-vis d'elle.
Ah oui, je voulais.
C'est conflictuel. Donc quand on dit telle mère, telle fille, là, ça marche pas du tout, hein.
Non, je pense que j'ai essayé de peindre nos relations dans tout leur mouvement, dans les contradictions et aussi dans les moments de conflit. Et justement, je voulais surtout pas faire une hagiographie parce que pour moi, la géographie, c'est vraiment du côté du mausolée, du monument. Et moi, je voulais faire un livre de vie, enfin une biographie et une autobiographie. Mais évidemment, ben, si on décrit que les moments merveilleux, en fait, il ne se passe rien, quoi. Il n'y a pas d'histoire et il n'y a pas de vie.
Mais Anne et Julia ne vivent pas toutes seules. À un moment, il y a Mimi.
Ah oui, il y a le chat. Il y a le chat, voilà. Le chat qui occupe, comme dans bien des foyers, une fonction tout à fait centrale.
Et là, alors, moi qui connais ma Julia Deck par cœur, j'ai repensé aussi à l'émission que vous aviez fait avec Monique Fauché, hein, figure tutélaire de cette émission, puisque c'est elle qui l'a créée il y a plus de 20 ans. Et je me rappelle que Monique Fauché m'avait dit, quand je lui parlais, alors comment allait Julia Deck quand je vais la recevoir, elle me dit, la dernière fois qu'elle est venue pour Propriété privée, son roman commence par une éventration de chats. Et je me suis dit, que vous aviez du toupet. Hein. vous éventrez les chats, mais vous vivez avec Mimi.
Ah bah oui, les animaux domestiques, ils jouent un certain rôle dans mes précédents livres. Alors je voudrais préciser que Propriété privée, ça commence en effet avec un meurtre de chat, mais c'est surtout parce que ça me paraissait une des choses les plus épouvantables qui se puisse imaginer. Donc là aussi, on avait un début de roman qui commençait de manière assez dure et on s'expliquait un peu par la suite.
Mais c'était une blague, mais je voulais passer par Mimi. Pour parler, mais ce qu'on voit
vous
aussi...
êtes le premier à relever son existence et je vous en remercie.
Merci. Donc Anne d'Angleterre fait le titre de votre livre, mais tout au long du récit, en fait, ce qu'on voit en creux, c'est aussi la naissance d'une vocation d'auteur. Et du reste, on voit même que vous n'êtes pas si libre parce que Anne, votre mère, à un moment, elle vous voit en écrivain. Elle se dit que ça sonne bien sur une couverture. Elle vous donne même du matériel. Mais vous, vous vous dites, non, j'attendrai la première phrase qui vaudra la peine.
Oui, c'est... ça m'a toujours frappé cette façon de... J'ai l'impression que les vocations, souvent, elles sont héritées. Alors, bien sûr, j'écris parce que c'est mon désir personnel et c'est mon choix. Mais je pense que ça procède largement de l'histoire familiale. D'abord, de ce matériau commun qu'était la littérature. Et puis après, tout comme ma grand-mère avait mis beaucoup de ses propres ambitions dans ses filles, ma mère a beaucoup... répercuter ses propres projections en moi. Et donc oui, à l'adolescence, c'est comme si elle avait disposé des petits signes pour m'indiquer sans me presser du tout, mais que si je voulais choisir la littérature, c'était une voie tout ce qu'il y avait de plus honorable.
En plus, vous avez, je dirais, les dons et les défauts nécessaires. Vous êtes extra-lucide, vous faites des prophéties. Mais par contre, vous avez les défauts de vos qualités, c'est-à-dire que vous exagérez tout. Tout ça, c'est dit dans le livre.
Oui, que je suis extra-lucide et que j'ai de l'exagération, ben oui, c'est... que dire de plus ? C'est vrai que le rapport au romanesque, il est finalement pas si intellectuel que ça, il est assez instinctif, mais instinctif guidé, c'est-à-dire que c'est quand même... une activité qui exige énormément de concentration, de labeur et de rigueur. Mais je pense qu'au moment où on fait les choses, on les comprend pas ou on les comprend pas complètement et on est un peu dirigé. C'est aussi plus fort que soi. Alors je veux pas dire que ça vient d'une volonté supérieure, hein, ça vient de soi, mais ça vient beaucoup d'une part latente ou d'une part inconsciente. D'où je dis ça avec ironie, bien sûr, et en me moquant de moi-même que je suis extra-lucide et que j'exagère tout. Mais il y a quand même un peu de ça, ouais.
Mmh. Alors, on approche bientôt de la fin de cette émission et je voulais vous faire réagir à une citation de Virginia Woolf dans des conférences qu'elle a données sur la lecture et l'écriture. Elle écrit « Il revient à l'historien de la littérature de trancher. Il lui revient de dire si nous sommes au commencement, à la fin, ou encore au milieu d'une période faste pour la fiction. Car ici, dans la plaine, nous ne voyons pas grand-chose. Nous savons seulement ce que nos dettes littéraires et nos propres batailles nous inspirent. Que certains chemins nous conduisent, semble-t-il, à des terres fertiles, d'autres à des déserts de poussière. Et qu'il peut être utile de rendre compte de tout ceci. Est-ce qu'avec votre livre, vous avez fait œuvre utile ?
Eh bien, je l'espère fortement. En tout cas, pour moi, la littérature que je pratique, elle interagit de manière très forte avec le réel. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est de travailler la matière du présent. Donc, est-ce que c'est utile ? Est-ce qu'il y a un message ? Est-ce que ça a une portée politique ? Ça, j'en sais rien. Mais je pense que c'est vraiment une activité agissante. C'est pas du tout contemplatif ou déconnecté du réel. Et pour moi, chaque livre a un petit peu transformé ma vie. Et ce qui me fait plaisir, et surtout par rapport à ce livre, c'est quand des lecteurs me disent que, en effet, ça fait écho à des choses qu'ils ont vécues et que ça fait avancer la discussion.
Bien. Écoutez, nous allons nous quitter. Je voudrais juste une question. Comment va Anne d'Angleterre ? Comment va-t-elle, si je peux prendre de ses nouvelles ?
Vous pouvez prendre de ses nouvelles, mais je vais vous répondre de manière sibylline. Elle va comme à la fin du livre.
Très bien. Nous arrivons au terme de l'émission. Je vous remercie d'être venu au micro de Parole d'auteur avec ce livre si émouvant, si fort et si personnel. Au-delà du témoignage, il est fait de la littérature grâce à votre style qui mêle distance, humour et ironie, et le rythme du récit qui donne envie de rencontrer cette Anne d'Angleterre. Il montre aussi la force de la littérature qui irrigue chacun des protagonistes dans les dits et les non-dits. Merci d'être venu à ce micro.
Merci beaucoup à vous.
Merci à Christophe Aubry. Lui, il est fidèle au poste, à la prise de son de cette émission. Sa réécoute est possible, cette émission, sur le site de Radio Présence et toutes les bonnes plateformes. À bientôt.